Donc, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, nous parle d'un roi qui a 16 ans, c'est Ozias. C'était un brave type, ce Ozias. Il a vécu en même temps que Ésaïe. Ésaïe est un grand prophète, il a été prêtre dans le temple de Jérusalem et il a fait son boulot de manière extrêmement droite et honnête, et sous quatre rois. Deux qui étaient à peu près convenables et deux tordus. Alors, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, il établit roi à la place de son père Amatsia. Ozias rebâtit Elot et le fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. À propos des localités et tout ça, j'ai reçu des cartes d'un ami pasteur qui a pris sa retraite. On s'arrangera pour les mettre convenablement sur des panneaux, faits convenablement, bien, pour ils iront aussi à l'exposition publique, quelque part dans un coin, je ne sais pas où, mais dans le corridor peut-être, mais après ils seront ici à la portée de tout le monde pour avoir un aperçu du pays d'Israël et de tous ces noms, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que c'est, etc. Ozias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer.
Comment ?
Voilà. Je vous invite à lire la Bible en semaine, tous les jours, plusieurs chapitres. Hein. Je ne peux pas faire ce boulot-là à votre place. C'est extrêmement important. La lecture de la parole de Dieu et sa méditation transforment quelqu'un. C'est Dieu qui transforme. Hein. Donc, je vais un peu plus loin. Verset 16. « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Donc c'est un boulot qu'il ne peut pas faire. Un roi ne doit pas faire ça. Ni les sacrifices, ni les parfums. C'est réservé aux prêtres et à leurs adjoints, les lévites. Il y a trois fonctions dans le peuple d'Israël. Le roi, deux, le prêtre, trois, le prophète. Et c'est clairement mis, clairement, trois fonctions séparées. Pour qu'une personne ne s'attribue pas les trois fonctions et prenne avec orgueil le pouvoir sur le peuple. C'est une offense grave à Dieu lorsque quelqu'un prend les autres fonctions en même temps. La seule personne qui est digne, qui est sans péché et qui est prêtre, prophète et roi, c'est le Christ. Il suffit de lire l'Épître aux Hébreux. Ok ? Chapitre 7. Alors, je suis au verset 17, le prêtre Azaria entra après lui avec 80 prêtres de l'Éternel. Hommes courageux, ils s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, en présence des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain prêtre Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front, ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. Je prends cet exemple-là pour que nous sachions que trop facilement, je suis étonné parfois quand j'ai des échanges avec l'un ou l'autre, trop facilement, on ne se rend pas compte à qui on a affaire à l'égard de Dieu. Et on se permet des fredaines, on se permet des choses qu'on ne devrait jamais. Jamais. Parce que Dieu a une autorité puissante et grande. Je pense, moi, en tant que pasteur, que je ne peux pas accepter toutes les plaintes de chacun ici. Parce qu'il y en a des plaintes qui relèvent du péché et de la colère de Dieu sur eux. Mais je ne peux rien faire. Mais il y a aussi des souffrances et parfois des plaintes qui peuvent m'être adressées pour que je prie, parce qu'il y a un vrai repentir et un désir de marcher avec Dieu. Dans le cas contraire, il ne faut pas me demander de rentrer. Vous avez vu les prêtres ici, ne rentre pas dans le jeu d'Ozias. Ok ? C'est quelque chose de très important. Maintenant, prenons les épîtres de Pierre, parce qu'on était dans l'Ancien Testament, évidemment. Alors on peut dire, c'est l'Ancien. Ben oui, mais il y a le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, il y a la grâce de Christ à la croix, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et à celui qui croit et qui fait la volonté du Père, de grandes bénédictions sont accordées. La première, c'est la vie éternelle, le don du Saint-Esprit, et d'être conduit par le Saint-Esprit dans une vie pour la sainteté, pas pour soi-même, pour la sainteté. Bon, semble-t-il que ça a été fort oublié régulièrement, et déjà au départ de l'Église, alors, nous allons prendre la deuxième épître de Pierre. Vous savez que Pierre s'est fait secouer par Jésus d'une manière monumentale un jour, parce qu'il ne voulait pas que Jésus aille mourir à la croix. Ah oui, il pouvait être le caïte, le roi d'Israël, le roi sur toutes les nations, le grand prêtre, tout ce que vous voulez, mais aller mourir à la croix, c'est-à-dire perdre la face et donner... C'était l'échec pour Pierre. C'était l'échec à tous ses projets ambitieux et l'échec à tous ses rêves. Et à toute l'équipe des apôtres, c'est la même chose. Jésus l'a tenancé, il lui a dit « Arrière, Satan, tes pensées sont celles des hommes. » Donc, il y a une similitude entre les pensées des hommes et les pensées de Satan. Pourquoi ? Parce que c'est Satan qui conduit l'humanité. Si Christ n'est pas dans la vie de quelqu'un, Satan conduit l'humanité. Et on voit bien où ça va. Alors, quand on a accepté Christ, il faut accepter d'être conduit. Jésus n'a jamais fait de mal à personne. À partir du moment où on lui donne sa vie, c'est pour le conduire vers le meilleur, vers la sainteté. Hein. Pour ça, il faut savoir être soumis au Seigneur. C'est une grande qualité de se soumettre à quelqu'un de saint et de vrai comme Jésus. Évidemment, si en nous il y a de l'orgueil ou de l'amour pour certains péchés, on n'est pas soumis. Même si on prétend. Seconde épître de Pierre, chapitre 1. Verset 3. Comme sa divine puissance, donc celle de Jésus-Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc Jésus a une telle gloire et une telle vertu qu'il est capable de nous conduire de contribuer à notre vie et à la piété, c'est-à-dire à la foi. Ok ? Alors, sa propre gloire et sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Donner sa vie à Jésus et accepter qu'il nous conduise dans la vie et la piété ouvre la porte à de grandes bénédictions, à de grandes promesses. Mais le problème, c'est qu'on veut toujours avoir tout de suite. Mais avec Jésus, c'est l'inverse. Tu as d'abord la foi et tu verras après. Autrement, c'est plus la foi. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Le but final de toutes les actions de Jésus-Christ dans notre vie, et de toutes les bénédictions et promesses, c'est notre participation à la vie divine. C'est une transformation totale de notre être. Pouvons-nous être chrétiens en disant « J'ai droit à mon petit bonheur ». Moi, je me rappelle, nos enfants étaient allés à une école primaire, et une jeune femme avait vu nos enfants. « Oh, j'aimerais bien avoir des enfants comme les vôtres ». Elle m'avait appelé, et puis elle m'avoue qu'elle avait une tante aux États-Unis qui était chrétienne évangélique, etc., qu'elle l'avait déjà reçue en visite. Cette tante était formidable. « Oh, j'aimerais bien devenir chrétienne comme elle. » Je prends la Bible, je prie, etc., puis je dis « ça semblait bien parti. » hein, bien parti, comme ça, souvent ça paraît bien parti. Et pratiquement, je prie avec elle pour qu'elle donne sa vie à un Seigneur Jésus, elle le fait. Et puis, quelques temps après, je la rencontre devant l'école, sur le parking, et elle n'avait plus l'air aussi joyeuse, aussi lumineuse que le jour où j'avais prié avec elle. Je lui dis, alors, comment ça se passe? Que tu vas? Oh, ben, je suis sorti en discothèque avec une copine, et puis j'ai rencontré un gars, et puis bon, deux, trois jours plus tard, je ne m'y attendais pas, il est venu à ma porte. Et alors, ben, je lui ai laissé rentrer. Il en est ressorti. Alors, il a été dans ton lit, alors. Je suis assez... Je m'excuse, mais je ne suis pas idiot, quand même, au point de me laisser conduire dans la bêtise. Alors, ce qu'il y a, c'est que je dis, écoute, on a prié pour le Seigneur, donné ta vie. Tu as dit toi-même que tu voulais un chemin, un bon chemin pour tes enfants, un bon chemin pour toi. Et regarde ce que tu fais. Ah oui, mais je n'ai pas dit que je voulais vivre comme une ermite. Eh bien, je dis, tu vas en souffrir. Tu vois. Eh bien, sa fille a fait une anorexie, un fils s'est suicidé, et l'autre est un drogué. Alors, pratiquement, elle est morte. Le chemin du péché mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Point à la ligne. Je vous le dis d'avance, je l'ai vu trop souvent. J'ai eu un groupe, à un moment donné, quand j'étais prêtre ouvrier, il y avait un groupe qui se réunissait à la maison. Ils n'étaient pas chaque fois tous là. Il y avait 60-70 jeunes qui venaient d'un peu partout avec les sacs à dos, souvent des jeunes de 17 ans à 25 ans. Mais il y avait 300 jeunes dans ce groupe. Des très jolies filles qui avaient, à mon avis, beaucoup d'avantages dans leur vie à cause de ça, et qui étaient intelligentes, qui faisaient des études, plusieurs, 5-6, se sont suicidées. Hein? Parce qu'elles ont fait un peu ce qu'elles voulaient avec leur corps. Et puis la deuxième chose, c'est pour la plupart, ils ont commencé à vivre, à fumer, à boire, à travailler. Puis il y a eu plusieurs fois des divorces dans leur vie. Et pratiquement, j'ai eu une réunion 33 ans après avec eux. Et j'ai dit à ma femme, je viens de les retrouver dans l'état où je les ai laissés quand je les ai quittés. J'en ai pas vu un qui avait fait un progrès, moral ou spirituel. Nous sommes dans une société de morts, de gens qui ne veulent pas s'élever, qui ne cherchent pas à s'élever spirituellement, moralement, et qui se perdent à s'écouter eux-mêmes. Qui se perdent. Or, Jésus n'a jamais voulu ça. J'ai proposé dans ces réunions-là, il y avait bien sûr, c'était une messe à cette époque-là, mais ça ressemblait très fort au culte, parce que je n'étais pas tout conformiste pour deux sous, je voulais que ça soit vrai et dans le Seigneur. Et pratiquement, il y avait un groupe d'études bibliques. Mais sur les 300, s'il y en avait 10-15, les autres étaient là parce qu'ils aimaient bien de rencontrer les autres. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait des groupes de 10 à 14 jeunes, chaque fois avec un animateur et un secrétaire. On avait une revue, tout tournait bien. Mais combien de fois, quand j'ai eu deux tournées, on a couché à droite et à gauche, même dans ma propre maison, en me jouant des tours. Et moi, j'ai des comptes à rendre aux parents. La trois quarts de tous ces jeunes sont déjà morts. Moi, je suis encore vivant et je vais chercher avec ma remorque mon bois. Le péché mène à la mort, je vous le dis. Et s'il ne mène pas à la mort, il mène à la mort de l'âme. On s'abonne au psychiatre, au psychologue, aux médicaments. Pour moi, l'arche est l'avenue, la voie de la perdition, étroit et resserré le chemin de la vie qui mène à Dieu. Celui qui a choisi Jésus, eh bien, j'en souffre, hein. Je ne suis pas en train de dire des choses pour salir les autres. J'en souffre. Parce que moi, je les ai reçus. Je me suis décarcassé pour les aider. J'ai eu la même chose sur un mouvement de jeunesse, hein, pour les deux villages ici. Un mouvement de jeunesse où il y avait 99 jeunes et enfants. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 20 ans. Il y avait des groupes de filles, des groupes de garçons séparés. Et il y avait des groupes de jeunes gens, des groupes de jeunes filles. À un moment donné, j'avais formé des responsables pour que ça continue bien, ça a duré un certain temps, et puis on a commencé aux anniversaires à faire des surbaumes. Et vous savez, quand c'est surbaume, il ne faut pas en rire, surbaume, eh bien la lampe, quand il fait trop clair, c'est pas trop bien. Hein. On veut baisser l'éclairage. Et pour finir, c'est devenu un endroit de frotte-frotte hein, entre les jeunes. On n'a plus le souci de faire le travail comme il faut pour les enfants et le mouvement. Je me suis investi là-dedans, jour et nuit. Quand je les revois, que je rencontre tous ces gens qui ont 50 ans, 55 ans maintenant, j'en ai 69, pour lesquels j'ai couru dans les bois, j'ai fait des camps sous tente. Hein? L'animation était menée convenablement. Toute l'année, du mois de septembre jusqu'au mois de juillet, fin juin, toutes les équipes de responsables, de dirigeants préparaient un mois d'activité. Pendant le mois de septembre, l'activité du premier jour du camp. Il y avait 10 jours de camp. Chaque mois, on se voyait, c'était préparé. L'activité avec les chants, avec les jeux, les bricolages, pour les jours de pluie et les jours de soleil. Et encore, je demandais, je faisais une retraite de temps en temps à Orval, pour ouvrir la Bible et pour leur enseigner à vivre dans l'Esprit Saint. Je me rappelle, j'ai fait une retraite sur 3 jours. Nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique nous l'a révélé. Jean chapitre 1, versets 14 à 16. Il n'y en a qu'une qui s'est convertie, c'est Marie-Hélène. Qui est sortie à un moment donné, pendant que j'expliquais, je prêchais, et qui est partie. Et elle est partie parce qu'elle avait besoin d'être seule avec le Seigneur. Et donner sa vie au Seigneur. Et les autres? Ils me riaient au nez après. Quand j'avais fini. Nous sommes dans une société qui se fout de Dieu et mais on joue du théâtre parfois. Le baptême, le mariage et l'enterrement dans une religion auquel ils n'adhèrent pas, mais ils le font. Ils seraient bouddhistes ou musulmans, c'est le même. Il y en a aussi comme ça. C'est quelque chose qui m'accable, qui me fait du mal. Je n'accepte pas. Heureusement que j'ai le Seigneur Jésus dans ma vie, dans mon cœur, pour déposer tout ça. Je ne ferai jamais de dépression à cause de tout ça. Jamais, je vous le dis. Je n'accepte pas l'échec de l'homme. Je veux la victoire du Seigneur Jésus dans la vie de l'homme. Mais l'homme qui ne choisit pas le bon chemin, il va se mettre la tête dans le mur. C'est clair, je l'ai vu assez. Je ne l'invente pas. Alors ici, dans la première épine de Pierre, la deuxième épine de Pierre, qu'est-ce que Jésus apporte à un homme, ou à une femme, ou à une jeune fille, un enfant qui aime Jésus? D'abord, le but final, c'est de devenir participant de la vie divine. Donc, c'est plus être participant de la vie reçue d'Adam et Ève, de la vie de péché, mais c'est être participant de la vie divine. Où elle est? En Jésus. Jésus était sans péché. Même dans le Coran, c'est mis. Il est rempli de la roue, complètement. Et dans le Coran, pas Mohamed, hein, aucun, seulement Jésus. Alors, regardez, à cause de cela, verset 5, chapitre 1, verset 5, faites tous vos efforts, donc il y a un engagement, un esprit de décision, de sérieux, une détermination. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la confiance en Jésus, la confiance en ce qu'il apporte, qui est meilleur que ce qu'on croit trouver dans ce monde, ou qu'on croit trouver en soi-même. Tous ces jeunes, quand même, presque 100 gosses et adolescents, plus en presque 300 jeunes entre 18. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui en reste? J'avais vraiment la foi dans le Seigneur Jésus. Je ne connaissais pas d'autre chose que le catholicisme. Je lisais ma Bible, je voulais amener des gens à Jésus. J'ai été prêtre ouvrier dans l'usine pour amener des gens à Jésus. Au bout de 26 ans, de 16 à 42 ans, je dis, Seigneur, j'en envoie pas un qui a accepté vraiment ta personne qui a reçu le Saint-Esprit. Si je meurs aujourd'hui, il n'y a personne pour continuer le travail que je fais. Pourquoi, Seigneur, un tel échec? Je suis tombé sur un verset de 2 Corinthiens 13:8 où il est mis ceci. Nous n'avons de puissance que dans la vérité. Hors de la vérité, nous n'avons point de puissance. Ce verset-là, tout d'un coup, j'ai compris. J'avais la foi en Jésus, mais j'enseignais des choses qui étaient polluées par des enseignements de concile, de papes et d'évêques, pollués par l'homme. Des enseignements qui étaient mélangés avec des choses que l'homme avait ajoutées. Et des choses qui avaient été aussi retirées. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis attaché à étudier la parole de Dieu et j'ai prié que le Seigneur, surtout ma femme, priait aussi pour moi, parce qu'elle savait que je voulais servir au Seigneur, pour trouver des gens qui aimaient la parole de Dieu avec exactitude, sans rien ajouter, sans rien retirer. Eh bien, en priant, et je me rappelle que ma femme Marie-Hélène suppliait le Seigneur pour ça, eh bien, on en a connu, et notre chemin a changé. Depuis lors, il y a des gens qui sont venus au Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit, et qui sont sauvés. Et il y en a déjà des décédés, il y en a déjà qui sont près du Seigneur. Mais sur tous ceux avant, 26 ans à pédaler, dans la semoule, dans le mastic. 26 ans à ramer dans les dunes. Parce que l'autorité de Dieu, de la parole de Dieu, n'était pas réellement dans ma vie. J'avais l'amour de Jésus. Mais l'autorité de la parole de Dieu, les amis, c'est la même chose pour vous. Vous pouvez avoir à fond Jésus, mais si vous n'accordez pas l'autorité à Jésus sur votre vie et à sa parole, un gros héros, pas recevable. Pas de fruits et pas recevable. 26 ans perdus, peut-être vous en avez perdu 40, peut-être vous en avez perdu 15 ou 20 de votre vie. Il n'est jamais trop tard. Quand j'étais dans cette situation, j'avais une entreprise. Et il est venu à la porte un groupe de jeunes avec la guitare. Et bien ma femme a dit, vous reviendrez quand mon mari sera là. Et ils ont chanté, on a écouté, c'était des chrétiens évangéliques. Et puis après, il est passé deux hommes qui avaient un boulot, et qui avaient appris par les jeunes qu'il fallait venir ici, hein. Ils voulaient évangéliser. Eh bien, ils étaient pentecôtistes, c'est clair. Je ne suis pas pentecôtiste, mais ils l'étaient. Ils aimaient vraiment le Seigneur. Ils ont parlé. Ils ont peut-être été trop cassants, pas assez à l'écoute. Et ça m'a freiné dans l'évolution. Mais ce qu'il y a, ils avaient raison. Mais il est arrivé un jour de Carré, de Bretagne, un bonhomme en voiture qui a fait le trajet rien que pour parler une demi-heure. Qui avait été prêtre et qui était pasteur évangélique. Et qui est venu pour une demi-heure et qui m'a dit, Jean, tu dois changer. Tu dois travailler pour le Seigneur Jésus. Il te reste encore des belles années devant toi. Et il faut tout changer. Tu dois écouter la parole de Dieu jusqu'au bout. Et pas chipoter à droite et à gauche. J'étais fâché, je n'acceptais pas. Et je suis ici qui ai des têtes dures, comme la mienne a été dure. Eh bien, il est parti. Mais il avait raison d'avoir fait le trajet 760 km x 2 pour m'enfoncer un coup de pied dans le derrière jusqu'à la cervelle. Alors, voilà ce que Pierre fait avec une église, une assemblée qu'il a fondée. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, donc la confiance en Jésus, la vertu, c'est-à-dire la sainteté. À la vertu, la science, la connaissance de la parole de Dieu. À la science, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Attention aux pulsions. Attention aux hormones. Attention aux sentiments. Le sentiment, en deux mots. Le sentiment. Le ressenti, espace, ment. Attention avec les doigts et les mains. On va vite. Le règne des sens, des sentiments, descend toujours en dessous de la ceinture. Il est rarement noble. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Eh oui, la patience. Je n'aurai pas tout de suite avec le Seigneur Jésus. Je n'aurai pas tout ce que je veux. Tandis que quand je m'écoutais, ou que je m'écoute, si je suis un bon chrétien charnel, hein, on peut dire bon, hein, dans les guillemets, eh bien je m'écoute, je fais tout ce qui me plaît. Je suis quand même libre, je suis chrétien, je suis quand même libre. Ce n'est pas une dictature, l'Église. Je ne vais pas être un ermite. C'est ce que cette femme-là a dit. Hein. Catastrophe pour les trois enfants. Hein. Et pour elle. Le chemin de la mort suit le chemin du péché. Hein. Et je ne souhaitais pas ça pour elle. Quand elle m'a répondu ça, je savais que tout allait dégringoler. À la patience, la piété. La piété, c'est réellement l'adoration. C'est réellement la reconnaissance entretenue avec Dieu. À la piété, l'amour fraternel. Tiens, c'est fini de s'aimer soi-même. On aime les frères comme Jésus nous a aimés en donnant sa vie sur la croix. Ah oui, Seigneur Jésus, je t'aime. Je te donnerai toute ma vie le jour du baptême. Je te donnerai toute ma vie. Et j'aime les autres chrétiens. Les amis, qui vient balayer la salle ici pour dire j'aime les autres chrétiens? Qui vient prendre un jour le torchon à raclette pour balayer ici? Quand il y a un repas fraternel, qui met la table, qui la tire, qui fait la vaisselle? Je donnerai ma vie pour Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Hein? C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Oui, je t'aime, ma chérie. Je suis marié pour le pire et le meilleur avec toi. Mais tu feras la vaisselle toute ta vie. Hein? C'est toi qui t'occuperas du repassage. Hein? De mes caleçons et de mes chaussettes dégueulasses, c'est toi qui t'en occuperas. Moi, ramasser tes trucs. Et si c'était différent? Monsieur est malade, il ne sait plus travailler, il a des problèmes de santé. Et madame joue à la jeune fille, à la belle bagnole, elle va travailler au Luxembourg, et puis elle en rencontre un autre. Et pourtant, on avait promis devant Dieu, on s'aimait pour le meilleur et le pire. Mes amis, vous croyez qu'on va pouvoir jouer longtemps comme ça avec Dieu?
Non.
Jamais. Tous ceux que j'ai rencontrés, j'avais vraiment une foi entière en faisant ces mouvements de jeunesse et ces groupes. Je vois que du saccage. Je vois que du saccage. Je ne vous souhaite pas d'aimer ce chemin. Combien de jeunes sont passés dans ma vie et je dis, mais c'est pas possible. Alors quand j'ai choisi vraiment le chemin étroit avec les évangéliques, la parole de Dieu, des prêtres, des religieuses, des amis, catholiquement dit, mais c'est comme un entonnoir. Au lieu de prendre l'entonnoir par le petit bout et de regarder pour voir clair, toi tu es rentré dedans et tu vas perdre tous tes amis. Je leur ai répondu ceci, si je dois perdre tous mes amis et que je suis avec Christ, je retrouverai d'autres amis, ceux qui aiment Christ. Et ça a été le cas. Tous ceux qui sont devenus mes vrais amis par l'Institut biblique à La Grange et en France, tous ces gens-là, qui depuis presque 30 ans donne de l'argent pour que ma famille puisse vivre, pour que l'Église, les campagnes d'évangélisation et le camp se fassent. Tous ces gens-là, la plupart, je ne les ai pas rencontrés. Ces gens, par une lettre, par un message, et où se rencontrer à une réunion à Paris, on est devenus des amis en Christ. Comment puis-je avoir un salaire, hein? Je gagne autant que quand j'étais responsable d'une entreprise. Hein? Oui, j'ai gagné ça. Mais maintenant, je le gagne moins. Je gagne moins parce que j'ai abandonné l'accueil des réfugiés ici. Je l'ai dit à toutes ces personnes, donc elles donnent moins pour ça. Il fallait être honnête avec elles. Il n'était pas le moment d'emmagasiner et de trahir le Seigneur avec l'argent. Mais toujours est-il que les vrais amis, le Seigneur les a donnés. Les faux amis, le diable vous les donnera. Ouvrez les bras. Faire attention. Il faut faire attention. Alors, l'amour fraternel est une chose formidable, formidable, que nous avons découvert au bout du chemin. Après tellement avoir cherché, on a trouvé de vrais amis en Christ, qui nous respectent, qui acceptent que nous soyons différents d'eux, mais engagés en Christ. Et la charité, c'est l'agapé, c'est le travail de Dieu, c'est l'amour du Père, comme il est sur Jésus, qui vient en nous. C'est cet amour-là qui nous empêche de nous décourager et de préférer le péché. Cet amour de Dieu qu'il a pour Jésus, cet amour qu'il a pour son fils Jésus, il l'a mis sur nous. Ce péché, cet amour nous empêche d'aimer le péché, même si le péché nous guette, même si on n'est pas plus parfait qu'un autre, même si on est tordu, j'estime que je suis tordu, comme tous les humains. Cet amour est tellement puissant qu'il m'est impossible d'écouter le tentateur et ce péché. il faut avoir de la haine pour le péché. Il faut se laisser gagner par cet amour divin. Si ces choses, verset 8, sont en vous, et ils sont avec abondance, c'est-à-dire, ça coule, pas une petite source qui va tarir dès qu'il y a du soleil, qu'il n'y a plus de pluie, hein. Non, c'est un torrent d'eau vive. Celui qui croit en moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. C'est ça que Jésus dit. Eh bien, c'est ça. Si elles sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles. C'est-à-dire qu'on va se mettre au service du Seigneur, au service des autres. Et on ne va jamais s'embêter. Hein. Il y a toujours du boulot plus qu'il n'en faut pour le Seigneur. Et ni stérile, c'est-à-dire on n'apporte pas la mort aux autres. On n'apporte pas le malheur aux autres. On apporte les bienfaits de Dieu. Bien qu'on ne soit pas parfait, bien qu'on ne soit pas meilleur que les autres, on amène quelque chose de plus qui n'est pas de nous, mais qui est du Seigneur. Hein? Et le Seigneur est bon et grand. Il aime les hommes. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous pouvons faire va amener la connaissance du Seigneur Jésus à d'autres et à nous. Mais celui, regardez bien, verset 9, celui en qui ces choses ne sont point. Donc on peut se dire chrétien, il parle à des chrétiens là. Celui en qui ces choses ne sont point, donc il y a des gens qui sont baptisés, ils sont chrétiens, et puis il n'y a rien du tout dedans, de vrai, est aveugle. Il ne voit pas de loin, donc il ne voit pas où il va. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Regardez la phrase là. Il retombe dans la boue. Et Pierre va jusqu'à dire ça, ceci, au chapitre 2. Au chapitre 2, il dit ceci. Au verset 12. Eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés se délèguent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent des âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à cupidité. Fric. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc, l'occultisme. Qui est mal le salaire de l'iniquité. Je vais plus loin, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours renflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc les nouveaux convertis peuvent se faire laisser facilement gagner par des mauvaises fréquentations, par des mauvais spectacles à la télévision ou au cinéma, des mauvaises revues, même des mauvaises pensées, refilées dans des conversations par d'autres. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Des gens, j'ai reçu tellement de confidences, d'explications, des conversations polluées qui, après, pendant la nuit, pendant les jours, les mois, vont travailler et creuser le fossé de la souillure. Il faut souvent demander au Seigneur, lave mes oreilles et lave mes yeux de tout ce que j'ai vu, j'ai entendu. Souvent. Seigneur, par le sang de Jésus, lave-moi parce que je suis vite contaminé. Mais les linges, quand ils sont sales, ils passent à la machine à laver. Hein? Mais moi, mon âme, comment elle peut être relavée et toujours être propre? C'est toi, Seigneur. C'est toi qui dois me garder. Je me confie en toi. Tu es mon refuge. Tu es mon protecteur, tu es mon berger, le gardien de mon âme. Alors, je vais vous donner un exemple. On va revenir après. Deux missionnaires scientifiques ont, dans un endroit perdu, une fosse sceptique. Ben, d'ailleurs, il y a des chrétiens parmi nous qui ont, chez eux, ils n'ont pas d'égout, ils ont une fosse sceptique. Bon, ils ont laissé dans une casserole de la nourriture pendant 15 jours, ils avaient oublié, et cette nourriture va fermenter. Puis un jour, ils se disent, où est-ce qu'on va aller taper ça? Et ils prennent la casserole et la vident dans le WC. Puis, paf, ils dans un coup d'eau, et puis, 15 jours après, ça sent le gaz partout dans la maison. Ça sent le gaz, le gaz, le gaz. Comme c'est une fosse septique, donc il y a le trou qui donne sur la fosse septique. Alors, pourquoi est-ce que ça sent comme ça? Ils prennent un papier, ils allument le papier, et puis ils le jettent pour voir ce qui se passe dans la fosse septique. Ils regardent. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ben, ils regardent le papier qui descend, et puis tout d'un coup, une flamme. Il y avait du métal, une flamme. Boum! Brûlé, les sourcils, tous les poils brûlés, boum, tous les deux, ils avaient la tête au-dessus des scientifiques. Ça veut dire que on n'est pas si scientifique qu'on se croit scientifique. Et puis, après, tout ce qu'il y avait dedans, qu'ils avaient pondu pendant des mois, est sauté comme un geyser. Ils en étaient couverts. Alors, ce que je veux dire, c'est que on peut se croire scientifique et faire des conneries au point de se faire tuer, hein, boum avec la flamme. Deuxième chose, être couvert du caca qu'on a fait pendant des mois, bim, partout. Alors, la vie chrétienne, les amis, la vie chrétienne, ça peut être comme ça. La vie chrétienne, il y a toujours quelque chose qu'on dépose qui n'est pas bon. Mais il ne faut pas aller remettre son nez dedans. Dans la vie chrétienne, il y a toujours des choses dans notre vie qui sont pas bonnes. C'est l'image de ça. Mais on ne va pas remettre son nez dedans. On ne va pas éclairer, même pour voir mieux. On n'y retourne pas. Parce que ça pète à la figure. La vie mauvaise, la vie de péché, on n'y retourne pas. Fratch. Vous avez compris? Alors, vous pouvez comprendre un peu mieux ce que Pierre dit. Hein? Et ça, c'est un fait vécu, ça. Hein? Ça devait être... moi, je me marre... je n'aurais jamais lancé de papier. Je connaissais bien qu'il y avait du méthane. Parce que j'ai étudié ça en chimie. Et le méthane est puissant, hein. C'est pas un petit gaz, hein. Alors, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. Verset 19. Il leur promet de la liberté. Donc, les chrétiens charnels qui entraînent les autres... le problème de la liberté. Oui, ben oui, tu as raison, c'est normal, tu peux profiter. Alors, le Seigneur ne juge pas comme ça. C'est du légalisme, tout ça. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, c'est ça que je dis, mettre la figure sur la fosse septique, il s'y engage de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, donc de Jésus, que de se détourner après l'avoir connu, du saint commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe, un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, l'a truie, lavé, s'est vautré dans son bourbier. Ok ? Je vous invite, les amis, à méditer tout ça. Je vous invite à méditer tout cela. Il faut être radical, non pas sur les autres pour les juger, non pas pour les embêter avec un esprit de jugement. Il faut être radical sur soi-même, sur le péché. On demandait une fois à une réunion de pasteurs, quel est votre problème ? Hein, en tant que missionnaire, ben oui, on est toute une équipe de missionnaires, on avait droit 2-3 minutes au micro chacun. Je dis, moi, le seul problème que j'ai, c'est moi et mon péché. Priez pour moi, qu'il soit bien crucifié et qu'il ne revienne pas à la surface, mon péché. Merci. Vous avez compris, un chrétien n'a jamais d'ennemis alentour de lui, même s'il a un voisin qui est méchant. Quelqu'un qui le maudit, quelqu'un qui lui joue des sales tours, qui prie pour lui, il verra des changements. Mais le seul qui pourrait ne pas changer, c'est celui-là, s'il se plaît dans son péché. Il faut aimer plus, beaucoup plus le Seigneur que soi-même. Il faut aimer beaucoup plus la parole de Dieu que nos pensées à nous qui nous trafiquent dans la tête et qui nous conduisent souvent à côté de la plaque. Tout ce que j'ai vu dans ces mouvements de jeunesse où j'ai vécu, quand j'ai été prêtre, j'aurais été jeune pasteur, j'aurais fait des mouvements de jeunesse. Et j'aurais eu peut-être la même chose. Parce que tous ces jeunes voulaient s'écouter eux-mêmes. Ils étaient dans une ambiance où tous leurs parents leur disaient « Mais il exagère, il est payé pour causer. » J'ai été une fois dans une famille. Le monsieur faisait du carrelage devant sa maison. Et j'allais chercher un des jeunes pour la réunion. Il me dit « C'est facile toi, t'es payé pour causer. » Je lui dis « Où est-ce que t'as vu que j'étais payé pour causer ? Je vais travailler à l'usine comme toi, je suis prêt ouvrier. » Où est-ce que tu as été chercher ça? Ravale ta parole, va. Et regarde-toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre l'argent de César. Parce que ça devient un sujet de critique. Quand Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si j'avais accepté d'être payé, j'avais accepté. Je suis un fonctionnaire, fonctionnaire de Dieu. T'es payé pour causer. Et tu peux dire aux autres, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Mais non, c'est pas ça. Je m'y refuse. Quand vous êtes avec les autres, les amis, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes en famille, partout, dites-vous bien que ce que vous voulez de meilleur pour vous, vous devez le chercher pour l'autre aussi. Et vous n'êtes pas payé pour causer. Vous êtes invité par Jésus à témoigner parce qu'il aime cette personne. Et il ne veut pas qu'elle aille en enfer. Jésus ne veut pas que cette personne aille en enfer. Et encore en plus, l'enfer, oh, c'est pour plus tard. Non, même pas l'enfer sur terre. Une vie de 30, 40 ans, 50 ans qui finit mal. Jésus ne veut même pas ça. Jésus veut le meilleur. Mais vous, vous le voulez? Alors attention. Ne mettez pas en oubli la purification des péchés. Pierre dit ça pour une des églises qu'il a fondées. Ils ont mis en oubli la purification de leurs péchés. Les amis, quand vous avez des vêtements, vous oubliez de les mettre à la machine à laver? Vous oubliez de mettre du savon? Non! Vous savez bien que vous serez complètement dégueulasse après. Vous purez. Est-ce que votre voiture, vous ne passez pas de temps en temps l'aspirateur dedans? Ou un coup d'éponge dessus? Ne plus qu'une fois par an, quand il y a un mariage ou un enterrement, comme moi. Mais il y en a des autres qui les lavent toutes les semaines. Mais ce qu'il y a, vous n'avez pas mis en oubli de brosser vos dents. Vous n'avez pas mis en oubli de vous coiffer. Vous imaginez qu'ici, il n'y a personne qui se lave depuis 6 mois. Mais il faut laisser tous les courants d'air, tout. Nous avons reçu ici des vagabonds, des SDF. C'était terrible. Ils avaient vécu dans des boîtes de carton, en dessous des terrasses de football, un peu partout, en dessous des ponts. Eh bien, la première chose qu'on faisait, c'était, tiens, un essuie, un gant de toilette et 2 essuies. Parce que le premier qui va s'essuyer encore crasseux, il faut qu'il se relève. Et puis, il faut mettre ça à la machine à laver tout de suite. Hein, parce qu'à la maison... Et pratiquement, quand il arrive, tu viens à table après. Alors, comme il n'a pas mangé depuis longtemps, eh bien, il remplit 4 fois l'assiette comme ça. En se demandant, en croyant qu'il n'en aura pas 2 heures après chez nous. Parce qu'il a tellement eu faim, tellement dans l'angoisse. Alors il fait un estomac comme ça avec des ulcères. Pourquoi? Parce que SDF est déréglé. Il mange comme un glouton parce qu'il sait peut-être que pendant 5 jours il n'aura pas mangé. Avec le Seigneur, vous pouvez manger régulièrement du Seigneur. Vous pouvez vivre avec le Seigneur et l'écouter là. Régulièrement. Vous n'avez pas besoin de faire le glouton d'avoir une indigestion de la Bible. Lisez-la régulièrement. Et vous serez en bonne santé, spirituelle et même physique. Là, deux amis là-dedans, les amoureux dans le fauteuil, ils ont accepté il y a à peu près 1 an le Seigneur. On se connaît, ils sont arrivés au début juillet ici, mais comme ils étaient partis à droite et gauche, et nous aussi, au mois d'août, ils étaient poussés à venir ici. On fait études bibliques, je donne des petites bibles aux enfants, qui les lisent, qui les étudient, ils vont à l'école, ils en parlent aux autres, et puis eux aussi étudient. Ils ont été attaqués rudement. Ils ont eu de grandes attaques. Ils n'ont pas abandonné. Je ne me suis pas permis aussi, ni ma femme, ni plus d'autres, de les laisser tout seuls. On ne les a pas laissés tout seuls. Vous savez très bien qu'il y a une réunion chez Christian et chez Jean-Louis, une fois par semaine, et puis il y en a une chez Jackie. Pourquoi? Parce que le chrétien ne doit pas être tout seul. Ce monde est féroce. La vie chrétienne est difficile. Nous n'avons pas, quand nous avons eu les SDF, on n'a pas laissé ces gens-là tout seuls. On les a accueillis pendant des mois, des années.
Pendant 39 ans, on en a eu. Et quand on a vu qu'on allait quitter les SDF pour prendre des réfugiés politiques, des réfugiés d'autre part, on a prié le Seigneur de nous donner, par des dons, le moyen de faire une maison d'hébergement au village. Il y a une maison d'hébergement au village avec 16 chambres, WC, douche, lavabo et tout, et deux dortoirs. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu pour ces SDF. Ils ne sont pas abandonnés. Et alors un chrétien, quelqu'un qui vient, qui a eu une vie dans le péché, et qui vient au Seigneur, il ne doit pas être abandonné. Il doit être, il vit dans une famille où il y a de l'amour, de l'encouragement, de l'écoute, et où il se nourrit régulièrement. Il n'a pas besoin de manger toute la Bible en une fois pour avoir un ulcère spirituel. Il la mange régulièrement. Il la lit régulièrement avec ses frères et sœurs, et aussi dans le secret de sa chambre. À ce moment-là, il y a une nouvelle vie qui se met en route. Et Dieu est lumière. Dieu est lumière. Beaucoup de lumière vient dans la vie de celui qui a choisi Jésus. Je vous invite à prier maintenant. Et si quelqu'un a un témoignage à faire, qu'il le fasse.